Vous écoutez, on lit pour vous.
Les artistes femmes autochtones pour une nouvelle perspective pédagogique. Un texte d'Hugo Beauchamp, paru le 5 février 2024 dans La Liberté au Manitoba. Le Centre Mentoring Artists for Women's Art, MAWA, a lancé une nouvelle édition de son guide pédagogique « Résilience, 50 cartes d'art autochtones et guides pédagogiques ». Cet outil pour les enseignants à travers le Canada met l'art des femmes autochtones en vedette. Une mise à jour d'un contenu paru pour la première fois en 2019 que les découvertes et les avancées en matière de réconciliation ont rendu nécessaire. Le Centre MAWA encourage et soutient le développement intellectuel et créatif des femmes dans les arts visuels. S'est lancé dans une initiative un peu hors du commun en 2018. Mettre sur pied une exposition qui s'accaparerait de l'espace public pour y montrer les œuvres d'artistes féminines, plus particulièrement les œuvres de femmes autochtones. Avec l'aide de la conservatrice Mohawk, Lee Anne Martin, le projet Résilience voit le jour et les œuvres de 50 femmes autochtones seront exposées sur des panneaux publicitaires, sur des bus, dans les centres communautaires et les écoles pendant l'été 2018. Faire vivre l'exposition plus longtemps. Après un été sous le signe du succès pour ce projet d'une portée impressionnante et des œuvres observées 23 millions de fois selon l'agence de location de panneaux publicitaires, l'exposition se termine sur une sensation amère, celle de n'en avoir pas fait assez. MAWA se tourne alors vers Albert MacLeod, aîné bispirituel, l'artiste autochtone interdisciplinaire Lita Fontaine et les enseignantes et artistes Dawn Knight et Yvette Senerini pour faire vivre le projet un peu plus longtemps. Ils, MAWA, ont décidé de créer un guide pédagogique que l'on pourrait distribuer dans les salles de classe de la maternelle à la 12e année, explique Yvette Senerini. C'était une chance d'œuvrer pour la réconciliation en mettant en avant des artistes autochtones contemporaines pour que les écoles parlent des vécus autochtones avec une nouvelle perspective. Ces guides ont donc été pensés pour offrir aux enseignants des ressources pour intégrer les arts et les histoires autochtones dans leur classe. Le guide, disponible en anglais et en français, s'accompagne de 50 cartes artistiques des œuvres contemporaines sélectionnées, elles-mêmes accompagnées d'écrits de la part des artistes. 10 sections. Quant au contenu du guide, Yvette Senerini, qui est spécialiste en éducation artistique auprès de MAWA, donne quelques détails. Il se divise en 10 sections avec différents thèmes, notamment sur le perlage floral, la résilience autochtone ou encore l'art et l'activisme. Les sujets sont pour la plupart liés au curriculum et ceux qui ne le sont pas n'en sont pas moins importants. Car, si l'art est au centre de ces guides, il n'en est pas nécessairement le cœur. Il ne s'agit pas seulement de parler d'art autochtone, l'objectif est aussi d'amener les élèves vers autre chose. Le pouvoir de l'image est un bon outil éducatif pour entamer des discussions, pour débuter des unités sur différents peuples ou encore pour parler des traités. Pour expliquer et détailler le contenu de chaque œuvre, ainsi que certains symboles spécifiques, un lexique a aussi été prévu. Ça représente beaucoup de travail de recherche, confie Yvette Senerini, qui explique avoir consulté de nombreux livres et vidéos. Comme ça, l'enseignant n'a pas besoin de faire cette recherche. Il a tous les outils à disposition pour créer son propre plan de leçon. C'est un outil assez flexible. Un travail continu. Un outil flexible avec un contenu qui continue d'évoluer. La première édition de Résilience 50 cartes d'art autochtone et guide pédagogique, a été publié en 2019. Le guide avait été distribué gratuitement dans les écoles winnipegoises, mais aussi dans les écoles rurales du Manitoba, ainsi que celles qui font partie des communautés autochtones à travers le Canada. Yvette Senerini précise qu'au moins la moitié a été distribuée gratuitement. Et pour cette réédition de 2023, des modifications ont dû être apportées au contenu des guides. Nous avons dû faire plusieurs changements. Au niveau du langage, par exemple, certains mots qui étaient acceptables en 2019 ne le sont plus. Au niveau des informations aussi, il s'est avéré que certaines étaient erronées et ont dû être mises à jour. Elle-même artiste autochtone, Yvette Senerini indique qu'elle a perçu la création de cet outil pédagogique comme une urgence. Plutôt que d'attendre la création d'un curriculum par le gouvernement, Mawa a réalisé que nous pouvions faire quelque chose qui pouvait arriver rapidement dans les mains des enseignants en s'assurant que les informations étaient justes. Elle précise d'ailleurs que le guide ne s'adresse pas seulement aux enseignants des prairies. Pour cause, le guide a été vendu jusqu'aux États-Unis, dans l'Est et l'Ouest, déclare l'artiste. Depuis le lancement de cette édition à la fin septembre 2023, 2000 impressions ont déjà été distribuées. Vers une rédaction plus inclusive. Comme l'explique Yvette Senerini, spécialiste en éducation artistique, de nombreuses modifications et mises à jour ont été apportées au guide pédagogique. Par exemple, le pronom « yel » a été ajouté à certains endroits pour rendre la rédaction plus inclusive. Une section entière a été dédiée à la notion d'appropriation culturelle, ainsi que sur le droit d'auteur. Nous souhaitons encourager les élèves à respecter la culture d'autrui et à créer à partir de leurs propres identités et vécus pour réaliser des œuvres uniques, explique Yvette Senerini. Il a aussi fallu faire disparaître des mots. La spécialiste en éducation indique que le film de l'Office national du film, ONF, Eskimo Artist, Kenojuk, a été remplacé par une vidéo de TV Ontario Arts, Kenojuak Achevak, The Enchanted Howl, et ce pour une raison simple. Le terme Eskimo est un mot péjoratif. Le film de l'ONF est un ancien film des années 60 qui l'utilisait à la place d'Inuk et Inuit. Même si la page web du site donne un avertissement à cet égard, nous ne voulions pas que le mot apparaisse dans le guide pédagogique. Nous avions choisi d'inclure le film dans les premières éditions en pensant que c'était acceptable. Nous n'en sommes plus convaincus. Cette expérience fut pour moi un grand moment d'humilité. Alors que j'écoute, apprends et grandis, ma prise de conscience et mes attitudes évoluent elles aussi. C'est sûr que, dans quelques années, il y aura encore d'autres choses dans le guide pédagogique qui ne devraient pas s'y trouver. En tant qu'éducateur, il est de notre devoir de revisiter le matériel pédagogique qui circule, au moins nous avançons dans la bonne direction. C'était « Les artistes femmes autochtones pour une nouvelle perspective pédagogique », un texte d'Hugo Beauchamp, paru le 5 février 2024 dans La Liberté, au Manitoba.
Le jardinier de la rue Beaubien. Un texte de Valérie Simard, paru le 12 septembre 2025 dans La Presse. Salut Alain.
Salut Michel. On se revoit pour la fête?
Rue Beaubien, Claude Perrault connaît tout le monde. On s'arrête pour le saluer, prendre de ses nouvelles et le remercier pour son travail. On pourrait le croire maire de l'arrondissement ou député du coin. Mais non, il n'est que l'homme qui plante des fleurs.
Depuis 15 ans, ce retraité et résident de Rosemont, la petite patrie à Montréal, fait fleurir son quartier. Il a commencé devant sa maison au lendemain de sa retraite, profitant des grandes fosses déminéralisées aménagées entre le trottoir et la rue pour y planter annuelles et vivaces.
« Ce n'est pas si extraordinaire que ça, » dit-il humblement. « Mais il y a du relief, il y a de la végétation des deux côtés, c'est plus calme. »
Il ne s'est pas arrêté à sa rue. Au fil des ans, il s'est approprié 45 carrés d'arbres, 40 fosses et 6 saillies de trottoirs, la plupart rue Beaubien Est, entre l'avenue des Lormiers et la 10e avenue. Si bien que sur le territoire de Claude, Cosmos, Tagette, Immortel, Aster et Coréopsis fleurissent désormais chaque été.
« C'est tellement beau! Regarde ça! »
s'émerveille-t-il. « Ce sont des immortels, de la même famille que la blanche que tu vois à la campagne. C'est une fleur de papier. Hey, touche à ça! Ça fait des fleurs séchées magnifiques! »
Verbomoteur, Claude Perrault nous avait prévenus.
« Je parle beaucoup et j'ouvre des parenthèses. »
Pour lui, chaque saillie a une histoire et il s'arrête devant chacune pour nous présenter les plantes qui la peuplent et les malheureux événements dont elles ont été victimes. Récemment, il a vu 3 ans de travail anéantis par une benne à déchets de la Commission des services électriques. Ça ne le fâche pas. Avec le temps, il a appris à conjuguer avec les aléas d'être un jardinier de l'espace public. Récemment honoré par l'arrondissement dans le cadre de son programme de reconnaissance citoyenne, il ne se gêne plus pour revendiquer une meilleure sensibilisation des travailleurs municipaux et des neigeurs à la protection de ces espaces verts. Autodidacte, il n'a pas de formation en horticulture, mais détient un baccalauréat en biologie. C'est toutefois la photographie argentique qu'il a enseignée. Il s'était promis qu'à sa retraite, il se lancerait dans une aventure.
« Je fais partie de ceux qui sont fascinés par les organismes vivants, dit-il, autant les humains que les animaux. Pour moi, faire ça, c'est un plaisir parce que je sens que je fais partie d'une communauté. »
« Il a vraiment contribué à créer une tendance », remarque l'un de ses voisins, le journaliste retraité Michel Labrec. « À un moment donné, tout le monde s'est mis à planter des fleurs. Ça a eu un impact. Et chaque année, il y a des plants différents. »«
Les plantes, c'est infini », ajoute Claude Perrault.
« Cette année, ma préférée, c'est la scabiosa. Je l'ai trouvée à Kamouraska. »
L'espace public d'abord. La plupart de ces plants proviennent toutefois de ses pépinières, notamment situées dans sa ruelle et dans le potager urbain du parc Beaubien. Il y démarre ses plants à partir des graines qu'il récolte à la fin de l'été un peu partout en ville. Depuis plusieurs années, il organise un échange très couru de semis, semences et vivaces au parc Molson.
T'as rien à échanger? « Je m'en fous, tu pars avec quelque chose. »
Sa seule demande, que les plants soient placés dans l'espace public, là où on en a besoin. Son travail ne se résume pas à planter. Il désherbe, arrose, nettoie. L'été sec qu'on a connu a été dur, à la fois pour lui et pour ses plants. « Combien de temps consacrez-vous chaque jour au jardinage?
»« Trop, selon ma blonde. »
Il peut compter sur l'aide de 3 personnes, en plus des commerçants de la rue. Si certains montrent peu d'ouverture, d'autres collaborent en se chargeant d'arroser la fosse devant leur porte.
Emiliano, c'est l'exemple type du parfait collaborateur,
déclare-t-il lorsqu'on arrive à la hauteur du magasin Vélo 4 saisons.
Il s'en occupe tellement que ça prendrait une fosse plus grande. « Tant qu'à avoir une photo dans la presse, je veux l'avoir avec Emiliano. Ça me prendrait 50 Emiliano. »
Claude Perrault a aussi recruté un homme qui s'installe chaque jour devant la succursale de la SAQ pour mendier.
« Il est ici à 4 heures, tous les jours. Je lui ai donné 2 arrosoirs et il assure l'entretien. Depuis, ça va bien, ses affaires. »
Malgré ses talents indiscutables de recruteur, Claude a besoin d'aide. Il y a l'âge, 76 ans. Sa blonde qui aimerait le voir plus souvent et son projet devenu plus grand que lui. Si des gens pouvaient s'occuper d'arroser dans leur secteur, ça aiderait, dit-il. Pour ceux qui habitent ailleurs, il les invite à fleurir l'espace public. Plus il va y en avoir, plus les gens vont sentir qu'ils sont dans un environnement où la végétation prend le dessus. Sa source d'inspiration. Mon paternel, qui avait une curiosité pour plein de choses. C'était un amoureux de la nature. Il a fait l'acquisition d'un bungalow à Saint-Laurent avec un grand terrain derrière. Il est parti en forêt pour aller chercher des arbres. Il en a mis partout. La cour, c'était une forêt. Mon père serait fier de moi. Bien que je sois un urbain, je trouve moyen de trouver une façon de me rapprocher de la nature. C'était « Le jardinier de la rue Beaubien », un texte de Valérie Simard, paru le 12 septembre 2025 dans la presse.
Laurent Musquet, architecte des milieux humides. Un texte de Joël Taillon, paru dans l'édition Été 2023 de la revue Nature sauvage. Une ombre file silencieusement au ras de l'eau. Instinctivement, on pense au castor. L'animal, dont on ne voit que la tête, est cependant plus trapu et suivi du sillon d'une queue longiligne. Brève description du rat musqué, habitant discret des milieux humides, qui se plaît à naviguer entre les quenouilles. Le rat musqué fréquente les milieux humides de presque tout le territoire du Canada et des États-Unis, n'occupant pas toutefois les habitats au nord de la limite des arbres. Endémique de l'Amérique du Nord, il a été introduit en Europe au début du XXe siècle, où sa fourrure a longtemps été prisée. La compagnie de l'abbé d'Hudson a fait une grande part de sa fortune avec la vente du Hudson Seal, ses peaux de rat musqué rasées et teintes en noir. Encore aujourd'hui, les policiers de la Gendarmerie royale du Canada portent fièrement des casques faits de fourrure de ce rongeur. Mammifère semi-aquatique, le rat musqué passe la majorité de sa vie dans les milieux humides. Marais, marécages, ruisseaux et rivières à faible débit, étangs, lacs peu profonds et canaux de drainage en milieu agricole. Il recherche un habitat dont le niveau d'eau est stable, d'une profondeur située entre 30 cm et 2 m, des paramètres essentiels pour éviter le gel hivernal et favoriser la croissance de plantes aquatiques. Principalement herbivore, il affectionne un menu composé de racines, de tiges et de rhizomes de plantes aquatiques, comme les quenouilles, les carex, les nénuphars et les potamons. Il agrémente parfois son repas de mollusques, d'amphibiens ou de poissons. En milieu agricole, il se nourrit dans les cultures de blé, de maïs ou de soya. Outillé pour vivre dans l'eau. Son allure, évoquant le croisement entre un rat et un castor, surprend. Un corps trapu, une grosse tête aux petits yeux et aux courtes oreilles et une longue queue écailleuse et aplatie latéralement. Le rat musqué dispose d'adaptations uniques à la vie semi-aquatique. Ses pattes avant, courtes et munies de doigts agiles et de griffes robustes, lui permettent de creuser, de construire son abri et de manipuler les aliments. Ses pattes arrière font quant à elles office d'aviron. Ses doigts, partiellement palmés, sont bordés d'une frange de poils courts et raides. Lors de la nage en surface, le rat musqué avance par mouvements alternés des pattes arrière et utilise sa queue comme un gouvernail. Sous l'eau, cette dernière lui confère une grande force de propulsion. Le rongeur possède également un atout, présent aussi chez le castor, pour ronger sous l'eau. Ses lèvres se referment derrière ses larges incisives à croissance continue. Le rat musqué est doté d'une combinaison parfaite pour la vie en milieu nordique. Son corps, sauf ses pattes et sa queue, est couvert d'une épaisse fourrure imperméable composée de longs poils de jarre, drus et lustrés, recouvrant un duvet court, dense et soyeux. L'hiver, ce duvet se densifie, emprisonnant une couche d'air qui améliore la flottaison et l'isolation. La fourrure demeure hydrofuge par les soins du rat musqué, qui la lisse avec la substance huileuse sécrétée par la glande de Harder, située derrière le globe oculaire. Plongeant typiquement quelques minutes à la fois, le rat musqué peut cependant rester immergé environ 17 minutes. En plongée, il réduit son rythme cardiaque et relâche plusieurs muscles, diminuant ainsi sa consommation en oxygène. Actif durant tout l'hiver, il se déplace sous le couvert de glace, repérant la végétation dans l'obscurité quasi totale. Lors des plongées hivernales, il évite l'hypothermie par le métabolisme de la graisse brune, ce qui lui permet d'élever sa température interne avant l'immersion. Et comme il prend des pauses entre les plongées, sa température corporelle ne s'abaisse pas trop. Terrier et hutte. Le rat musqué construit différents genres d'abris selon la profondeur de l'eau, l'accès à la nourriture, le type de berge et la saison. Il concentre ses activités dans un rayon de 100 à 150 mètres de son abri. Le terrier, excavé dans la berge d'une étendue d'eau, est entretenu et utilisé à longueur d'année. Pour son aménagement, le rat musqué cherche une rive élevée comportant une forte pente, un sol argileux, une végétation aquatique abondante et un faible débit d'eau. Situé sous l'eau, l'entrée du terrier mène à un tunnel de 1 à 9 mètres de long qui monte progressivement au-dessus du niveau de l'eau. Le tunnel aboutit à une ou plusieurs chambres où le rongeur aménage son nid. La hutte est quant à elle érigée lorsque l'habitat ne permet pas le creusage d'un terrier. En outre, il s'agit de l'abri hivernal par excellence pour s'abriter et élever les jeunes. La construction débute en août et se termine à la formation du couvert de glace. Les membres d'une même famille partagent une hutte commune et s'y blottissent, conservant ainsi leur chaleur durant les longs mois d'hiver. Structure précaire, la hutte nécessite un entretien périodique et est souvent détruite par les crues printanières. La construction d'une hutte. Comment le rat musqué arrive-t-il à construire une hutte qui mesure jusqu'à 1,5 mètre de haut? D'abord, il forme un monticule de végétaux et de boue de 0,5 à 1 mètre de hauteur et de diamètre. Ensuite, il plonge sous l'eau et creuse un passage jusqu'au centre du monticule où il aménage une pièce principale qui lui servira au repos et à l'alimentation. Enfin, il solidifie les murs extérieurs avec de nouvelles couches de matériaux. L'hiver, le rat musqué bâtit également des plateformes d'alimentation. Aménagées le long de fissures ou de cavités, ces plateformes lui donnent accès à l'eau sous la glace et servent de relais entre la hutte principale et les sites d'alimentation. Au moyen de végétation et de boue, le rat musqué y construit des huttes miniatures de 1 mètre de hauteur où il se repose ou mange la nourriture récoltée en plongée. Les huttes, principales et secondaires, et les plateformes sont espacées afin de minimiser la durée des plongées, réduisant ainsi l'exposition au froid. Territorial et prolifique. Le mâle défend un domaine vital chevauchant celui d'une ou plusieurs femelles. Il communique sa présence à ses rivaux et aux femelles des alentours par son odeur. Le rat musqué est typiquement monogame, à l'exception de quelques cas répertoriés de polygynie. Unité sociale de base, le couple défend un domaine vital exclusif et les deux parents prodiguent des soins aux petits. La femelle donne des soins de la naissance au sevrage et le mâle se met à l'œuvre après le sevrage, surveillant l'abri et fournissant de la nourriture aux jeunes et à la femelle. Dans le Québec méridional, la femelle est en mesure de s'accoupler en avril et en août et ainsi d'avoir deux portées par année. Après 28 à 30 jours de gestation, elle donne naissance en moyenne à 6 ou 7 petits. Les nouveaux-nés naissent nus, aveugles et pesant seulement de 15 à 20 grammes. À l'âge de 2 semaines, ils sont couverts de fourrure et commencent à nager. Ils sont sevrés et assez autonomes dès l'âge de 30 jours. Après le sevrage, les jeunes demeurent quelques semaines à proximité de leur abri natal avant de partir à la recherche d'un nouvel habitat. Ils sont aptes à se reproduire dès l'âge de 1 an. Les juvéniles de la portée d'été, favorisés par une alimentation diversifiée et des conditions climatiques clémentes, croissent plus rapidement que ceux nés à l'automne. La mortalité des jeunes de l'année est élevée, atteignant jusqu'à 85 %. Le rat musqué est la proie du wison d'Amérique, du renard roux, du coyote, de plusieurs oiseaux de proie et quelquefois de la loutre, du raton laveur, du brochet et de la tortue serpentine. Le rongeur est également vulnérable aux fluctuations du niveau de l'eau, incluant les crues printanières, les événements de gel-dégel en hiver, les sécheresses en été et les inondations à l'automne. Enfin, le rat musqué est l'animal le plus piégé au Québec, près de 30 000 fourrures étant enregistrées et transigées chaque année. Architecte des milieux humides. Le rat musqué est parfois perçu comme une nuisance. Cette étiquette tient au dommage que de temps à autre il occasionne aux cultures, bandes riveraines et systèmes de contrôle de l'eau en milieu agricole. Mais le rat musqué est surtout reconnu comme un architecte des milieux aquatiques. Sa simple présence contribue à complexifier les milieux humides, à créer des habitats pour d'autres animaux et à limiter la prolifération de certaines plantes aquatiques. Au Québec, l'état des populations de rats musqués est méconnu, mais on observe une baisse des prises par le piégeage, principalement dans le sud de la province où son habitat a subi d'importants changements. Parmi ceux-ci, on note l'arrivée d'espèces exotiques envahissantes telles que le roseau commun, la modification des pratiques agricoles et les changements climatiques. Sur les terres publiques, l'habitat du rat musqué est protégé en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune du Québec. Ainsi, citation, un marais ou un étang d'une superficie d'au moins 5 hectares occupé par le rat musqué, fin de citation, est légalement défini comme un, citation, habitat faunique, fin de citation. La protection de ces milieux humides, riches d'une grande diversité biologique, améliore la résilience des écosystèmes au changement climatique. La protection de l'habitat du rat musqué constitue un atout indéniable pour le futur des milieux humides. C'était « Le rat musqué, architecte des milieux humides », un texte de Joël Taillon, paru dans l'édition Été 2023 de la revue Nature sauvage.